Les Beaux Rôles est une idée originale d'Immersion CP. La série Balado propose un parcours d'insertion professionnelle des CP de l'enseignement supérieur à travers l'angle de la compétence numérique.
Les CP classiques là, qui ne touchent pas au numérique, là, pour moi, c'est terminé. Là, cette époque-là est révolue.
Devenir conseiller ou conseillère pédagogique de l'enseignement supérieur, ça ne vient pas avec un mode d'emploi. C'est un métier qui s'apprend en le pratiquant. Je m'appelle Géraldine Hussier, je suis CP programme au Collège Montmorency à Laval depuis moins d'un an. Vous écoutez la série Les Beaux Rôles. Je pars à la rencontre de collègues d'un peu partout au Québec et je cherche des repères pour m'approprier mon nouveau rôle de CP. Pour ce dernier épisode de la série Balado, ben oui, déjà, on va parler entre autres de développement professionnel. Moi, je suis une curieuse de nature. Des formations, il y en a plusieurs qui m'intéressent, mais en même temps, je ne veux pas m'éparpiller non plus. Donc, je me questionne souvent sur ce que je devrais prioriser. Et je fais un lien ici avec la professionnalisation des CP. Est-ce qu'on aurait avantage à ce que notre rôle soit mieux défini? Ça nous aiderait peut-être à mieux orienter notre développement professionnel. Et comment peut-on imaginer l'évolution de notre profession dans les années à venir? Vous êtes à même de le constater, un gros menu nous attend dans cet épisode. Sans plus tarder, je me tourne une dernière fois vers mes collègues du cadre de porte, Alexandre Dalpan du Cégep Garneau et Marjolaine Lewis. Vous le savez, Marjolaine était jusqu'à tout récemment CP à l'ITS. Elle est maintenant directrice adjointe à l'enseignement au Collège de l'Immobilier du Québec.
Cadre de porte.
Bonjour Marjolaine, salut. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui,
vous? Oui, ça va très bien. Grande forme.
Super.
Déjà notre dernier épisode aujourd'hui.
À ce qui paraît.
Oui, donc je pense que le sujet d'aujourd'hui conclut bien le fil de nos discussions. On va parler de développement professionnel et reconnaissance.
Mmh. Effectivement, gros sujet.
Donc d'abord, comment vous voyez votre développement comme CP? Alexandre?
Moi, je le vois un peu comme le mode, tu sais, le bon vieux buffet des continents. C'est-à-dire, t'arrives, tu t'auto-formes, là. Tu vas chercher ce que tu veux, puis c'est pas toujours bon, là, des fois, ce qu'on fout, mais tu choisis tes webinaires, tes colloques, tes rencontres professionnelles. Mais t'as pas vraiment de plan développement professionnel. C'est un peu, tu t'ajustes, faut être très organisé, faut s'y tenir. Puis je trouve que c'est difficile d'avoir un objectif clair et défini. Tu vas pouvoir suivre quotidiennement pour que ça paye à un moment dans tes tâches quotidiennes. Fait que je suis un peu là-dedans.
Okay. C'est exactement ce que je pensais aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'options. Moi, quand je suis tombée CP, c'était pendant la pandémie. Après la pandémie, il y a eu un boom. On pouvait aller faire C'est ça, il y avait plein de choses à faire. Puis mon employeur était ouvert à ça plus que dans le privé où j'étais avant. Fait que c'est vraiment très intéressant de voir toutes les opportunités puis surtout d'aller rencontrer des collègues, vu que moi, j'en avais peu. Ça, c'était une belle opportunité.
Ça permet de sortir un peu des murs. Hein. Ouais.
C'est ça, puis de voir les gens en vrai, puis de poser des vraies questions, puis se comparer. Fait que pour ça, c'était super intéressant. Fait que c'est pas les opportunités qui manquent, mais comme tu disais, c'est de décider qu'est-ce que nous qui va être pertinent c'est pour nous, puis de... Ça prend du temps à participer à tous les événements aussi. Là, j'étais plus sélective à la fin, je dirais.
OK. Moi, ça a toujours fait partie de ma vie professionnelle. D'abord, comme nutritionniste, la formation continue était obligatoire.
Ben oui.
Ah oui.
Après, j'ai commencé comme prof et là, je me suis vite formée en pédagogie. Là, rendue comme CP, je me suis dit, il faudrait que mon insertion professionnelle se fasse un peu plus rapidement. Donc, je me suis inscrite dans un micro-programme en conseil pédagogique.
Okay.
Donc, c'est plus macro. Si on y va de façon plus ponctuelle, j'avoue que là, j'y vais en fonction de mes besoins, peut-être de mes dossiers. Des fois, par intérêt personnel, puis c'est là que tu finis peut-être par te perdre, par t'éparpiller. Mm-hmm. Puis là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Tout ce que je viens d'apprendre.
Qu'est-ce qui est resté?
Ce qui m'amène justement à vous demander comment vous établissez vos priorités dans votre développement professionnel.
Bien, moi, c'est un petit peu comme tu disais, je vais prioriser en fonction de mes projets. Fait que si j'ai un projet qui porte sur, l'évaluation, la classe inversée, je vais peut-être aller me former un peu plus là-dessus si j'en sens le besoin. Mais je me garde toujours une petite partie personnelle. Par exemple, la ludification, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée puis que j'ai donc peut-être le goût d'essayer, mais qu'il faut trouver la bonne opportunité. Fait que je fais ce que j'ai besoin de faire, puis je me garde un petit nanane que je fais de côté, que j'ai hâte d'utiliser, puis j'essaye d'influencer mes projets pour aller dans le sens.
Intéressant.
C'est drôle. Mmh. Je suis vraiment pareil, en fait. C'est vraiment en fonction des mandats, parce qu'on n'a pas toujours le temps de se former. Oh, fait qu'au niveau des mandats, c'est la priorité. J'ai toujours gardé un petit peu de temps pour le reste, le côté fun, effectivement. Tu sais, quand tu as plusieurs sujets d'intérêt, ben, tu croustilles un droit à ta gauche, puis tu dis, ben, là, je me contente de ça. Mais c'est sûr que finalement, c'est une journée à la fois, mais après quelques années dans le milieu, ben, tu te rends compte que t'acquiers beaucoup d'affaires.
Ça
quand
rentre
même.
Quand même.
Ouais, quand même, finalement. Vrai, des fois, on dit, le temps, mais d'en faire un petit peu à chaque fois, ça finalement, ça devient pertinent à la force, ça construit.
Et puis, on se ramasse une petite pochette de référence. Ah, c'est toujours ça, vrai. On ne pourra jamais tout retenir, mais d'avoir des références, notre petit coffre à outils qui est prêt, je pense.
Pochette, que... des petites graines un peu partout.
Exactement.
Okay, une pochette numérique.
Oui, évidemment.
Pour moi.
Non, chacun sa pochette.
Le travail de CP, c'est vraiment un travail de l'ombre. OK?
Oui,
donc, comment se traduit la reconnaissance dans votre travail? Ça s'exprime de quelle façon?
Bien, c'est sûr qu'on travaille avec des humains, hein? Fait que c'est pas un chiffre d'affaires à faire un suivi nécessairement ou à créer quelque chose de très concret. Fait que moi, c'est toujours dans le domaine dans lequel j'ai évolué. Fait qu'un merci ou quelqu'un qui parle de ce qu'on a fait ensemble à ses collègues puis qui vient nous voir. Fait que c'est comme ça un petit peu que je vois la reconnaissance. Puis, c'est aussi un de nos défis, je pense, c'est de se faire reconnaître dans l'institution où j'étais déjà là. Ils savent qu'on a un service, ils savent un peu ce qu'on fait, mais que la direction de tous les départements nous pousse, puis qui nous chapeaute, puis qui nous demande notre accompagnement tout le temps, ce serait une belle reconnaissance.
Tout à fait.
Oui,
juste pour débuter, ben oui, c'est ça.
Ben, c'est sûr qu'après, de l'autre côté, c'est un métier de l'ombre, donc il faut l'accepter d'une certaine façon. Yeah. Mais il y a peu de reconnaissance réelle, que ce soit localement, comme tu disais, ou même nationalement. Des fois, on se questionne, un CP, c'est quoi? Déjà, c'est un conseiller pédagogique ou une conseillère pédagogique. C'est pas un ou une conseillère d'orientation, donc on n'est pas avec les étudiants, on est avec les profs. Ne serait-ce que ça, des fois, même localement, des fois, il y a un enjeu. Fait que c'est sûr qu'il y a un travail qui doit se faire pour peut-être être plus souvent sur le terrain avec les profs, d'être plus accessible facilement, pour qu'il y ait un contact, un échange plus spontané. Ça aiderait beaucoup. Mais ça reste, comme tu dis, les meilleures reconnaissances, c'est quand les profs te voient après les avoir aidés. Merci, c'est cool, je m'en suis sorti, tu m'as aidé. Ça, c'est le meilleur des salaires, c'est certain. Ouais, c'est une belle reconnaissance.
Moi aussi, c'est un peu comme ça. Étant nouvelle dans le métier, la reconnaissance, surtout par les pairs, l'équipe, mes relations avec les profs. Mais j'avoue que la reconnaissance un peu plus macro de la profession, je me suis pas trop questionnée encore, mais je constate que c'est quand même pas un métier qui est toujours très bien connu, là, comme vous l'avez dit.
Je pense, ouais, effectivement.
Quelque chose à travailler, ça, c'est certainement à ce niveau-là. J'ai envie qu'on conclue sur quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier?
C'est une bonne question, je te dirais. Spontanément, quand on en parle comme ça, c'est l'aspect de dynamisme, le dynamisme dans le travail. T'es rarement assis dans ton bureau toute la journée, tu te déplaces, tu vois des gens. Le côté relationnel humain, beaucoup d'interactions avec les gens. Puis, on se sent utile. On aide les gens, que ce soit le personnel enseignant, non enseignant, pour ce qui me concerne, pour le support numérique. Et puis, dans ce milieu-là, on a toujours des gens extrêmement intéressants, motivés, stimulants. Fait que je trouve que c'est riche. Chaque jour change un peu dans sa routine, ça, c'est important.
Les beaux contacts.
Oui, effectivement, ouais.
Ben oui, puis moi, en plus, pour faire du pouce là-dessus, ben c'est l'ouverture puis les opportunités. On a un éventail de compétences et si on veut aller dans l'ETI, ben on pousse là-dedans, il y a des opportunités pour le faire, dans l'accompagnement, dans le développement de programmes. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est un petit peu pour ça aussi que le métier, on a plein de profils différents. Chacun, on a notre bagage. Ça apporte l'expertise de tous ces gens-là qui se complètent bien. Fait que moi, je pense que c'est ça. Fait que c'est d'être curieux puis d'être ouvert puis d'avoir le goût d'essayer des choses. Ça nous amène là où on voulait être ou qu'on pensait peut-être pas être.
Moi aussi, c'est beaucoup le côté relations humaines, la diversité des mandats. Je pense que c'est ça qui apporte aussi beaucoup de dynamisme. Il y a le changement de rythme que j'ai trouvé au début qui était très déboussolant de passer de prof à CP. Qui maintenant, j'apprécie beaucoup, donc d'avoir un peu de recul, d'avoir le temps de réfléchir davantage, de pouvoir approfondir.
De ne pas être
essoufflé toujours avec des sprints de 15 semaines.
Ouais, c'est ça.
Donc, puis je retiens les opportunités, comme tu disais. Justement, on a un autre bel exemple ici. Alexandre, tu viens d'accepter de relever un nouveau défi professionnel.
Et oui, comme quoi tout le monde peut changer à un moment, tu sais, voir autre chose. Je pars pour un nouveau mandat, mais de toujours conseiller pédagogique, universitaire, donc à l'Université Laval. Je pars pour un an pour tester plus grosse institution, plus gros enjeux, des défis professionnels qui s'en viennent. Fait que très stimulant. Fait que oui, on commence là-dessus.
Félicitations.
Ben merci beaucoup. T'as le guts pour le faire. Fait que c'est bon.
Écoute, il faut essayer des fois. On ne sait pas où on va, mais on peut découvrir des belles choses.
Exact, on avance.
Merci beaucoup.
Marjolaine, Alexandre, ça a été un réel plaisir de vous côtoyer dans les derniers mois. Merci pour votre générosité, pour avoir éclairé la profession, avoir répondu à tous mes questionnements.
On a essayé.
Je suis convaincue que beaucoup de nouveaux CP, puis peut-être même des plus expérimentés, là, qui vont bénéficier de vos réflexions sur le métier. À très bientôt, j'espère.
Merci à toi. En tout cas, c'était plaisir.
Oui, c'était super plaisant.
Comme dernière entrevue à cette série balado, je pense que c'est tout indiqué de porter un regard sur l'avenir de notre profession. Pour ce faire, je reçois une CP d'expérience qui occupe aujourd'hui un poste de direction. Il s'agit de Judith Quentin. Judith a commencé sa carrière en enseignement du français au secondaire à la fin des années 90. Elle a rapidement fait le saut du côté de la conseillance pédagogique. Elle a été CP pendant 19 ans. Et à travers tout ça, elle a obtenu un doctorat en sciences de l'éducation. Depuis un an, elle dirige le Bureau d'appui et d'innovation pédagogique à Polytechnique Montréal. Bonjour Judith.
Bonjour Géraldine.
Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais qu'on parle d'abord de la professionnalisation de notre profession. Pour un ou une CP qui entre dans la profession, et je peux en témoigner, ça peut être déstabilisant de ne pas saisir clairement notre rôle et nos responsabilités quand on entre en poste. Donc, est-ce que c'est possible de penser qu'on en arrive à une meilleure définition professionnelle au cours des prochaines années?
Bien, en fait, moi, Géraldine, je pense qu'on va arriver à une meilleure définition de notre rôle de CP puis des compétences que ça prend pour être CP. Donc, je pense que cette meilleure définition-là va nous permettre de peut-être faire parfois des auto-réflexions sur les compétences qu'on possède davantage puis celles qu'on possède moins. Fait qu'au niveau de la formation, ça va nous permettre de prendre des meilleures décisions sur les aspects qu'on devrait développer. Okay. Cependant, moi, je pense que le fait que ce ne soit pas super bien défini, je vais peut-être avoir une opinion différente que ce que tu penses. C'est-à-dire que moi, j'apprécie quand même le fait qu'il y ait un flou artistique autour, pas nécessairement des compétences, mais du rôle qu'on peut incarner à l'intérieur de nos institutions. Parce que tu sais, moi, quand j'ai commencé mon rôle de CP, j'étais pas nécessairement satisfaite de ce que c'était vraiment. T'sais, donc, okay. Le premier mandat, là, par exemple, que j'ai eu, c'était là, de donner des formations sur First Class, qui était un logiciel de courrier électronique. Puis, tu sais, ben, moi, je trouvais que je connaissais plein d'affaires, j'avais des compétences et tout ça. Puis, au final, mon rôle, c'était de donner des formations de courrier électronique. Pèse sur la petite enveloppe, commence un message. Fait que, tu sais, j'étais pas super emballée de ma profession.
Il manquait un petit peu de challenge, disons.
Ouais, mettons que je trouvais que mes compétences n'étaient pas vraiment bien exploitées. Okay. Puis, écoute, chemin faisant, il y a une personne qui me dit « Ouais, mais t'as-tu déjà pensé demander à ton patron de faire des mandats que t'aimerais faire? » Tu sais, s'il y a quelque chose que t'aimerais faire, demande-le, puis peut-être que ton patron va dire oui. Puis tu sais, moi, à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup au phénomène de la motivation, m'intéressais beaucoup à l'apprentissage, puis je m'intéressais beaucoup à comment les technologies pouvaient soutenir la motivation, la métacognition, puis l'apprentissage. Puis, ben écoute, je suis allée voir mon patron, puis je lui ai dit, écoute, Denis, les formations First Class, peut-être que tu pourrais confier ça à un technicien. Moi, j'aimerais mieux faire des formations sur comment les technologies pourraient soutenir la motivation. Puis, à mon grand étonnement, il m'a demandé combien de jours tu veux mettre là-dessus cette année. C'est une super bonne idée. Fait que là, j'ai compris que j'avais plus de pouvoir que je pensais sur le mandat que j'avais. Puis selon moi, après ça, j'ai toujours pris le flou comme étant une belle occasion pour moi de proposer une définition de mon poste telle que je le souhaitais.
Fait qu'on peut aller en fonction de nos intérêts. C'est quand même très, très positif, là, finalement.
Oui, c'est ça. Fait qu'autrement dit, si c'est mal défini, définis-le, puis propose ta définition, puis regarde comment ça réagit.
Très intéressant, très intéressant. Tu es maintenant dans un poste de direction. Je suis curieuse de savoir sur quels critères tu t'appuies pour embaucher un ou une nouvelle CP.
Bien, en fait, tu sais, quand on a à embaucher une personne CP, souvent les formations qu'on peut offrir à cette personne-là ou auxquelles cette personne-là pourra avoir accès, c'est souvent des formations conceptuelles. Tu sais, c'est-à-dire que, bon, on peut aller se former sur l'approche de ceci, sur l'approche de cela. On peut se former en techno, on peut... Mais par contre, la posture d'accompagnement, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les formations classiques auxquelles les CP sont exposés. Puis aussi, les CP vont souvent provenir d'une formation davantage en enseignement ou une formation disciplinaire. C'est ça. Donc, on vient de quelque part. Hein. Fait que souvent, l'élément plus conceptuel, pour moi, c'est quelque chose qui est possible d'aller chercher, tandis que la posture d'accompagnement, donc la capacité d'une personne à entrer en relation, à former une alliance de travail avec une personne avec qui elle va travailler, pour moi, c'est vraiment ça qui est le nœud de l'affaire.
C'est là que la personne va se démarquer davantage que sur tous ces concepts, tout ce qu'elle connaît théoriquement, en fait.
Oui, parce que dans le fond, si la personne est un peu hautaine dans sa prise de position, donc si la personne se met en position haute, qu'on dit, puis qu'elle démontre à la personne qu'elle a ses plein d'affaires, puis que l'autre a vraiment un problème, puis qu'elle fait bien de venir la voir parce que sans ça, elle ne s'en sortirait pas. Donc, ouais. C'est sûr que les clients ou les personnes qui nous consultent vont partir en courant.
Ben oui.
Donc, tu sais, un CP qui est un peu hautain puis qui a de la difficulté à entrer en relation, c'est pas un CP devant lequel on va faire la file.
Mais c'est un métier de relation, là. C'est ce que je réalise.
Oui,
vraiment,
c'est
là, avec
ça.
Le temps, là.
Ouais. Oui, oui, tout à fait. Fait que si on n'est pas capable d'entrer en relation, c'est vraiment perdant. Donc, pour moi, là, je cherche quelqu'un de curieux qui va vouloir se former à tout le reste puis qui a le goût aussi de travailler avec les autres membres de son équipe.
OK. Merci. C'est quoi le rôle et la place du numérique dans tout ça? On aborde toujours le numérique, donc j'aimerais t'entendre sur le sujet.
Oui. Bien, c'est sûr que le numérique, pour moi, ça fait partie du travail de tous les CP. Là. Les CP classiques là, qui ne touchent pas au numérique, là, pour moi, c'est terminé. Là. Cette époque-là est révolue. C'est sûr que, puis là, ben, en fait, avec l'arrivée des chats GPT, les robots conversationnels, les technologies sont omniprésentes, puis si on les envisage pas, on passe vraiment à côté mm-hmm. d'un phénomène qui va nous englober éventuellement.
Va devenir dépassé assez rapidement, là. Ça, on peut pas...
Oui, puis de toute façon, les profs vont venir nous voir en disant, écoute, mes étudiants utilisent ChatGPT, je fais quoi avec ça? Donc, pour moi, c'est vraiment important de remettre le doigt sur l'essentiel de l'activité humaine. Puis pour moi, ben, le regard critique ou le développement de l'esprit critique chez les étudiants, c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder à l'esprit parce que c'est ça qui va nous distinguer des machines au final. Les machines peuvent être de bons conseils, les ChatGPT, les Google et tout ça, c'est vraiment des compagnons de travail, mais la décision, c'est un humain qui va la prendre au final. Donc, pour moi, ben c'est ça. Ça fait partie de la vie, puis on n'a plus le choix.
Faut s'y intéresser, même si on sent qu'on n'a pas toutes les compétences. Si on s'y intéresse, on est curieux, curieuse.
Faut savoir qu'est-ce que ça fait.
C'est ça. OK. Comme dernière question, j'ai envie qu'on se projette dans l'avenir. Comment vois-tu l'évolution de notre profession?
Bien, pour moi, la transformation du métier de CP ou de la profession de CP, c'est nous qui allons le décider, puis nos structures aussi en partie. C'est-à-dire que nous autres, on est au service de nos structures, de nos enseignants, de notre institution, mais ces institutions-là sont incarnées par des personnes. Fait que si, comme groupe, on a le goût que notre métier évolue dans une certaine direction, c'est important qu'on le fasse savoir puis qu'on le fasse valoir pour essayer d'influencer la transformation de notre rôle. Puis c'est sûr qu'on va devoir s'adapter aussi, en parallèle avec ça, à la transformation de nos institutions. On ne le sait pas, on ne peut pas prédire hein, quels sont les enjeux.
Quoi, les enjeux, puis, c'est ça.
Qui vont nous arriver dans les prochaines années. Fait qu'il faut rester à l'écoute de ça, tout en tentant de toujours jouer le rôle d'influence à sa pleine capacité, puis à jamais hésiter à le faire.
Puis être capable de s'adapter, hein, on l'a vu dans des épisodes précédents, le changement fait partie intégrante du métier de CP, bien...
C'est oui, ça, tout à fait. Arriver... Puis tu sais, comme je te le disais aussi dans la première question, quand je te parlais de comment j'avais tenté d'influencer la définition oui. de mes mandats, bien c'est encore ça la question, c'est-à-dire que si on a des choses à proposer, proposons-les, puis voyons comment notre institution réagit. Puis comme ça va se transformer dans la direction qu'on souhaite collectivement.
Tout ça conclut très bien cette entrevue. Merci, Judith, d'avoir pris le temps de venir nous partager ce regard sur la profession. À une prochaine!
Bien, ça me fait plaisir, Géraldine. N'hésite pas, s'il y a quoi que ce soit, fais-moi signe.
Pour moi, le développement professionnel, ça fait partie un peu de mon ADN. J'aime ça être à jour et me perfectionner. Mais pour éviter l'éparpillement, je pense que ce qui peut m'aider, c'est de me donner un objectif par année selon mes intérêts. Et un autre élément que je retiens de cet épisode, c'est qu'on peut tirer profit du flou qui entoure la profession. On a une certaine latitude pour donner notre propre couleur à notre métier. C'est ici que se termine cette série balado. J'espère que, comme moi, elle vous a permis de répondre à certains questionnements. Pour ma part, ça me conforte dans mon nouveau choix de carrière. J'aime le côté humain du métier. J'aime l'idée qu'on puisse avoir une liberté d'action. Est-ce que j'ai encore le syndrome de l'imposteur? Je dirais que non. Je sens moins la pression de devenir une experte en pédagogie et en numérique. Au fond, je réalise que ce qui est important, c'est d'être capable de bien accompagner et de faire preuve de curiosité et d'ouverture. J'ai eu le privilège de faire de belles rencontres tout au long de cette aventure et je souhaite que vous aussi, ça vous a donné le goût de tisser des liens dans le réseau des CP. Merci d'avoir été à l'écoute et qui sait, à bientôt peut-être!
Pour accéder au contenu et à la communauté d'Immersion CP, consultez la plateforme au www.i-immersioncp.ca. Au plaisir de vous y retrouver! La série Les Beaux Rôles est une production de Mémodia. À la scénarisation et à la réalisation, Julie Saint-Laurent et Nathalie Gagnon. À la captation, au montage et au mixage sonore, David Elias. À la création musicale, David Elias. Une idée originale d'Immersion CP.